Katrina, Harvey, Ida, vous vous souvenez de tous ces prénoms qui ont marqué l'actualité ?
État d'alerte et évacuation massive de la population à la Nouvelle-Orléans. La ville du sud des États-Unis est menacée par l'ouragan Katrina, l'un des plus puissants observés.
Houston et sa région sous les pluies diluviennes de la tempête Harvey. Les dégâts sont déjà considérables.
L'ouragan Ida balaie le sud des États-Unis en ce moment. S'il baisse en intensité, il a déjà plongé la Nouvelle-Orléans dans le noir complet.
Des inondations catastrophiques sur la côte ouest de la Floride après le passage de l'ouragan Ian.
Ian, c'est donc le dernier ouragan à avoir touché terre aux États-Unis, dans l'État de Floride. C'était le 28 septembre. Il a laissé derrière lui des milliers de personnes sinistrées, des paysages de désolation. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, les autorités déplorent le décès de plus de 60 personnes. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Dans cet épisode de Témoins d'actu, je vous propose de revenir sur cet événement qui est aussi un test politique pour le gouverneur républicain de Floride. Les ouragans sont fréquents sur les côtes américaines. Une douzaine s'abattent en moyenne chaque année entre début juin et fin novembre. Tous, évidemment, ne font pas autant de dégâts. Mais la Floride, comme le Texas et la Louisiane, sont en général les États les plus touchés. Quand le Centre national des ouragans américains annonce que Ian, qui a frappé quelques jours plus tôt l'île de Cuba, se renforce et passe en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5, cela fait déjà plusieurs heures que les habitants de Floride subissent la pluie et les vents qui accompagnent ce type de phénomène climatique. Ne paniquez pas, mais préparez-vous au maximum. C'est la consigne de Ron DeSantis, le gouverneur de l'État, raconte alors à la radio David Thompson, le correspondant de RFI à Miami. Il s'apprête à vivre son premier ouragan. Bonjour David.
Bonjour Alex.
5 jours après le passage de Ian, à quoi ressemble la ville autour de toi ?
En fait, l'ouragan, moi je suis à Miami, donc on a été épargné par l'ouragan, relativement épargné ici à Miami. On se demandait un petit peu comment ça allait se passer, mais l'ouragan est passé juste au-dessus de Miami. Donc en clair, on a eu chaud parce que ça s'est joué à quelques dizaines de kilomètres. Ici, ce qu'on a ressenti, c'était une grosse tempête, des vents très forts, des pluies diluviennes, mais il n'y a pas eu de destruction à Miami, il y a eu quelques petites coupures de courant, mais rien de très inquiétant, rien de très perturbant finalement pour la ville ici à Miami, contrairement à ce qui s'est passé évidemment de l'autre côté, côté Golfe du Mexique.
Mais tu avais quand même des consignes de rester chez toi par exemple ?
Oui. En fait, tous les habitants à Miami ici étaient tout le monde était très inquiet parce que ça rappelait, vu la puissance annoncée de Ian, ça rappelait des précédents assez traumatiques pour la population de Miami, notamment l'ouragan Andrew en 1992 qui avait dévasté la moitié sud de la ville, qui était un ouragan de catégorie 5, celui-ci est de catégorie 4, mais les gens craignaient que ce soit un peu le même type d'ouragan. Donc, à chaque fois, il y a un risque que ce qu'on appelle le landfall, c'est-à-dire le moment où de l'impact, plutôt le lieu de l'impact, soit ici à Miami, tout le monde se prépare. Donc les consignes sont vraiment très claires. Donc déjà, il faut faire des provisions parce que on est bloqué dans sa maison, coupé du monde extérieur pendant une semaine. Donc les autorités demandent à tous les habitants de faire des provisions d'eau, de nourriture, de quoi tenir une semaine, des provisions d'essence également parce que l'électricité est coupé. Il est arrivé que l'électricité soit coupée pendant un mois, voire deux mois pour certains habitants. Donc il faut imaginer ce que c'est en Floride où on ne vit que sous la climatisation en Floride parce qu'il fait très 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 chaud, très humide. Donc les gens se préparent, font des stocks d'essence pour alimenter les groupes électrogènes parce que c'est la seule source d'électricité dans ces cas-là. Et puis consigne aussi, faut surtout pas sortir de chez soi. C'est interdiction absolue de sortir de chez soi. C'est potentiellement mettre sa vie en danger. Et puis même à l'intérieur de chez soi, il faut avoir en fait ce qu'on appelle une panic room, un peu, c'est-à-dire un endroit où si jamais ça tourne mal, même dans sa maison, si une fenêtre casse et que l'ouragan rentre dans la maison, il faut avoir une pièce où toute la famille puisse se réfugier. Donc nous, on avait cette pièce-là parce que les gens nous racontent des histoires ici, des ouragans précédents. Par exemple, ma voisine m'expliquait que pendant un jour, justement, tout le toit de son voisin s'était envolé. C'était un jeune couple avec un enfant en bas âge. La maison était en face de la leur, mais ils n'avaient pas la possibilité de sortir tellement les vents étaient forts. Donc ils ont dû rester dans cette maison, exposés au vent, aux pluies, avec un enfant en bas âge. Ils ont dû attendre plusieurs heures que l'ouragan passe avant de pouvoir sortir. Donc c'est des situations qui sont vraiment traumatisantes et qui restent dans la mémoire des gens ici. Donc oui, quand il y a un ouragan, tout le monde se prépare.
Et quand on commence à recevoir toutes ces consignes, qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as réalisé que potentiellement, tu pouvais vivre quelque chose de dangereux ou finalement, ça reste quand même un peu abstrait ?
Non, c'était vraiment très concret pour nous. Quand il y a une alerte ouragan, les gens savent ce que ça veut dire ici. Moi, c'était la première fois que je le vivais, mais j'ai ressenti vraiment dans mon entourage, ici, là où j'habite, une anxiété très forte. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de nouveaux habitants qui sont arrivés à Miami, dont je fais partie, des gens qui venaient de zones où on n'est pas habitué à vivre des ouragans. Et les gens, les habitants historiques de Miami nous disaient vraiment, attention, il faut prendre les mesures de sécurité au sérieux. Quand les autorités vous disent de vous préparer pour avoir de quoi tenir une semaine en autonomie chez vous, il faut vraiment acheter de l'essence, stocker de l'essence, de la nourriture. Parce qu'en fait, une fois que l'ouragan est passé, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment bloqué. Les autorités font ce qu'elles peuvent, mais toutes les routes sont coupées, tous les supermarchés sont fermés, les stations-service ne sont plus alimentées et vous n'avez plus d'essence. Donc, il faut vraiment vraiment se préparer. Donc, non, pour nous, c'était vraiment très concret. Moi, je n'étais pas rassuré, hein, très franchement. Et finalement, pour nous, ça s'est bien passé.
Et du coup, quand on est journaliste comme toi, David, qu'est-ce qu'on se dit ? Je respecte les consignes ou on est quand même tenté de sortir pour aller faire du reportage ?
À chaque ouragan, pour les correspondants, pour moi comme pour tous les autres correspondants, la question se pose de comment couvrir ce type d'événement. Donc il y a deux choix en fait. Soit on va se mettre dans un endroit où l'ouragan va taper, en clair. Donc on se met en situation de danger, c'est pas un danger extrême parce que il y a toujours, si on s'organise bien, des endroits dont on sait qu'ils sont relativement protégés, des bâtiments qui sont préparés pour ce type d'événement, dont on sait qu'ils vont pas s'effondrer. Donc voilà, mais moi, je considère que ça n'apporte, surtout en radio, ça n'apporte pas grand-chose de prendre ce risque-là, journalistiquement. De toute façon, pendant que l'ouragan passe, en fait, vous ne pouvez pas vraiment sortir de chez vous. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de se mettre en danger. Donc, en fait, le choix qu'on a fait, c'est d'y aller après le passage de l'ouragan pour, malheureusement, constater l'ampleur des dégâts. Et les dégâts étaient évidemment d'une ampleur qualifiée d'historique par les autorités.
Là, tu décides donc de te rendre à Fort Myers, c'est dans le comté de Lee, c'est celui, je crois, où l'on dénombre le plus de morts. C'est à combien de kilomètres de Miami ?
Donc le comté de Lee, il n'est pas très loin de Miami, il faut compter 3 heures de route. On passe d'une côte à l'autre, en fait, hein, pour Miami-Fort Myers. La difficulté, c'est qu'il faut traverser les Everglades. Les Everglades, c'est un grand marécage. Il n'y a pas d'habitation, personne vraiment n'habite là, quasiment. Truffé de crocodiles. Comme c'est un marécage, évidemment, l'eau potentiellement monte pendant un ouragan. Donc finalement, la route n'était pas vraiment coupée. Elle a été un petit peu coupée, mais pour des réparations de pylônes électriques qui étaient tombés. Donc la route était tout à fait praticable pour se rendre à Fort Myers, donc 3 heures de route. Mais après, la difficulté, c'était de rentrer dans Fort Myers. Ça a pris beaucoup plus de temps. L'ouragan a coupé toutes les infrastructures. Quand on arrive à Fort Myers, il n'y a plus station-service, il n'y a plus d'électricité. Donc, qui dit plus d'électricité, dit plus de signalisation. Les feux rouges ne marchent plus. C'est un peu le chaos sur les routes. Et c'est le moment aussi où tous les habitants qui ont évacué, il y avait 2,5 millions d'habitants qui étaient sous le coup d'un an d'évacuation, tous ces habitants reviennent d'un coup. Donc, c'est des embouteillages monstres. Il faut imaginer aussi qu'il n'y a plus de supermarchés ouverts, il n'y a quasiment plus de restaurants ouverts. Donc, tout devient compliqué. Bon, j'ai dû mettre quelque chose comme 2 heures pour rentrer dans Fort Myers.
En arrivant, le premier mot qui t'est venu à l'esprit, c'est lequel ? Parce qu'à la télé, on a beaucoup entendu des habitants parler d'apocalypse.
Il y a un petit sentiment quand même, ouais, un peu apocalyptique, post-apocalyptique, parce que on entend les sirènes, des pompiers qui passent en trombe, longeant des embouteillages de milliers de voitures qui attendent comme ça sur des routes où plus rien ne marche, les feux rouges sont éteints, vous avez des destructions quand même qui, à mesure qu'on approche de Fort Myers, sont de plus en plus importantes. Un arbre sur deux qui est couché, des arbres, des palmiers qui ont été déracinés, les panneaux des magasins qui, pour la plupart, n'ont pas résisté. Au fur et à mesure qu'on approche, ça devient assez concret. En plus, moi, quand je suis arrivé, j'avais plus d'essence, donc il a fallu que, tout bêtement, que je trouve une station-service ouverte. Il y en avait une, mais qui était prise d'assaut, donc il fallait attendre des queues immenses. Donc on a ce petit sentiment là, effectivement, à ce moment-là, que waouh, il vient de se passer quelque chose quand même d'assez grave ici. Et c'était le moment où j'étais même pas encore rentré dans la ville de Fort Myers.
Il y avait beaucoup de solidarité entre les habitants ou pas ?
En fait, c'est vraiment dans la culture américaine, ça, de s'entraider. Ce qu'on se dit souvent, c'est que cette entraide, elle vient pallier l'absence d'aide publique ou le manque d'aide publique parce que les gens n'attendent rien de l'État. Donc, ils savent qu'ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc, on va d'abord compter sur ce qu'on appelle ici la communauté. Donc, la communauté au sens strict, la famille, ensuite la communauté un peu plus élargie, le quartier. Et puis ensuite, vous avez des gens qui viennent de tous les États, qui apportent leur aide. Il y a des appels à l'aide comme ça sur les réseaux sociaux, des collectes, des appels aux dons, de biens de première nécessité qui sont plus disponibles. Des gens amènent de l'eau, des gens amènent de la nourriture, de l'essence. Donc, l'entraide, elle est réelle, mais elle vient pallier ce que nous, en tant que Français, on pourrait considérer comme un dysfonctionnement, c'est-à-dire l'absence de véritable aide publique, étatique, comme on l'aurait en France. Quand vous arrivez sur une catastrophe comme ça, en tant que Français, je veux dire, moi, je me rappelle la première catastrophe que j'ai couverte. J'ai été surpris de la réaction des habitants parce que je me mettais dans une sorte de psyché française où la première réaction d'un Français, c'est de dire « bon, que fait l'État ? Est-ce qu'on a déclenché le plan hors sec ? Est-ce qu'on a fait quelque... » Voilà. Ici, il ne va pas y avoir ce genre de polémique, véritablement, parce que les gens n'attendent pas grand-chose de l'État dans ces situations-là. Ça, c'est la culture américaine.
Ça veut dire qu'ils n'auront aucune aide, qu'ils ne seront pas indemnisés pour tous les dégâts qu'ont causé Yann sur leur habitation, sur leur voiture ?
Non, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'auront aucune aide. D'ailleurs, il y a une aide fédérale qui a été demandée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à l'administration Biden. L'aide a été débloquée. Donc, reste à savoir quels sont les critères d'attribution de cette aide qui se monte à quelque chose comme 40 000 dollars par foyer. Des aides seront versées aux habitants les plus sinistrés. Vous avez aussi, quand on arrive à Fort Myers, c'est une noria de camions électriques qui viennent pour réparer les pylônes qui sont tombés, réparer les lignes électriques, rétablir le courant le plus vite possible, parce que ça reste la priorité des habitants. Donc l'aide n'est pas inexistante pour autant.
Ça fait 5 jours là que Yann est passé. Est-ce qu'il y a encore des endroits où les secours ne peuvent toujours pas accéder ?
Il y a des endroits, 5 jours après le passage de l'ouragan, où les secours ne peuvent pas accéder. D'ailleurs, l'évaluation exacte des dégâts et du bilan humain est toujours incertaine pour cette raison-là. Un exemple très symbolique pour les habitants, pour la Floride et pour les États-Unis, c'est l'île de Sanibel. C'est un lieu touristique majeur. Beaucoup d'Américains vont passer leurs vacances là-bas. C'est une langue de terre qui est juste devant la ville de Fort Myers et qui a été vraiment frappée de plein fouet par l'ouragan. C'est sans doute l'une des zones les plus détruites, les plus affectées par le passage de Yann. À cet endroit-là, il n'y a tout simplement plus d'accès possible à l'île de Sanibel parce que le pont qui était le seul accès qui reliait cette île au continent a été détruit. L'un des sénateurs de Floride vient de dire que ce pont ne pourrait pas être reconstruit avant 2 ans. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, cette île va rester coupée du continent. Les journalistes n'y ont pas accès, puisque l'accès à l'île de Sanibel est interdit aujourd'hui. Donc on a des images aériennes qui montrent un niveau de destruction absolument inouï. On ne sait pas vraiment quelle est l'ampleur des dégâts et quel peut être le bilan humain du passage de l'ouragan sur l'île de Sanibel.
Je disais au début de cet épisode que la côte est, le sud-est des États-Unis sont en première ligne en général des tempêtes tropicales, des ouragans. Est-ce qu'il y a, en tout cas, est-ce que tu as ressenti une forme de résilience qui s'installe ?
Alors, les gens en Floride sont assez habitués évidemment à ce genre d'épisode, mais c'est vrai que c'est moins le cas de ce côté-là de la Floride, sur le côté Golfe du Mexique. Un ouragan de cette nature, c'était pas arrivé depuis 1921. Donc, ça faisait un siècle que cette partie de la Floride n'avait pas connu une situation pareille. Et évidemment, du coup, un siècle, c'est une mémoire qui est assez longue. Donc les gens, en fait, on peut dire que personne n'a vécu ça de ce côté-là de la Floride de sa vie. Donc quand même, il y a une résilience. On sait que ça arrive en Floride. Les ouragans, ça fait partie presque du quotidien. Mais les habitants étaient vraiment sonnés cette fois-ci que j'ai rencontré. Ils ne s'attendaient pas à de telles destructions, à un tel niveau de puissance de l'ouragan.
Et quand la majorité des experts affirment qu'avec le réchauffement climatique, ces phénomènes comme cet ouragan, alors certes, ils vont pas être peut-être plus nombreux, mais en tout cas, ils vont être plus violents. Ça pousse certains à partir, à quitter carrément la Floride ou pas ?
Alors, à chaque fois que j'ai posé cette question aux habitants, la réponse était toujours la même. On est en Floride, les ouragans, on sait que ça arrive et c'est pas pour ça qu'on va quitter l'État. Personne ne m'a dit, voilà, là c'est trop, il y en a assez, je pars. Après, sur la question du réchauffement climatique, il faut bien se rendre compte qu'ici aux États-Unis, la question du réchauffement climatique est toujours un enjeu de débat politique. Vous avez quasiment une moitié du champ politique qui considère que le changement climatique n'est pas une réalité, qui est engoncé dans un climato-scepticisme très fort, entretenu par un discours politique constant dans le camp républicain de négation de la réalité du changement climatique. C'est d'ailleurs le cas en premier lieu du gouverneur de cet État, Ron DeSantis, hein, qui considère que c'est un discours, pour reprendre sa propre expression, de gauchiste et qu'il ne fait pas partie de ces gens-là. Donc ça, il le dit très clairement là-dessus. C'est quelqu'un qui a, par exemple, fait passer des législations pour empêcher les entreprises de s'adapter au réchauffement climatique, pour les empêcher de réduire leurs émissions de CO2. Donc, le comté de Lee, qui a été le plus frappé par l'ouragan, est un comté là où cette situation est la plus aiguë, puisque c'est un comté qui a voté Donald Trump à près de 60% à plus de 60% aux dernières élections. Donc, pour ces gens-là, le changement climatique, c'est pas un enjeu, c'est même, pour beaucoup, c'est pas une réalité. Donc, les gens ne s'attendent pas à voir des ouragans de plus en plus violents, puissants, destructeurs, meurtriers en raison du changement climatique, puisqu'ils n'y croient tout simplement pas.
David, tu m'as dit que la solidarité, elle fonctionnait très très bien après cet ouragan. Politiquement, un événement comme ça, c'est géré comment ? Je sais que Joe Biden est attendu sur place dans 2 jours, c'est ça ?
Oui, absolument. Joe Biden est attendu dans 2 jours. Ce qui était particulièrement observé, voire même scruté ici, c'était comment le gouverneur Ron DeSantis allait gérer cette crise majeure. Pourquoi ? Tout simplement parce que Ron DeSantis, c'est pas n'importe quel homme politique aux États-Unis, c'est celui qui est perçu comme l'héritier direct de Donald Trump, dont toutes les intentions de sondage, c'est lui le favori dans le camp républicain, c'est lui qui va rafler la mise du trumpisme, si j'ose dire. C'est-à-dire que si Donald Trump ne se présente pas aux prochaines élections, c'est lui qui sera le candidat des républicains aux prochaines élections à la prochaine élection présidentielle. Donc évidemment, l'enjeu dépassait le simple fait qu'il est actuellement en campagne pour sa réélection en tant que gouverneur de Floride. L'enjeu, c'était plutôt de savoir pour les médias américains comment un possible futur président des États-Unis va gérer cette première crise. C'était la première fois qu'il gérait vraiment en tant que gouverneur un ouragan. Donc on a vu un Ron DeSantis ultra présent dans les médias, ultra présent en conférences de presse, jusqu'à 3, 4, 5 conférences de presse par jour. On l'a même vu aller symboliquement dans un Waffle House, c'est-à-dire une chaîne de crêperies ici très connue, aller lui-même en cuisine, retourner les crêpes du premier Waffle House qui rouvrait après l'ouragan. Donc il a vraiment tenu à s'imposer dans les médias. Des publicités de campagne étaient diffusées en permanence sur CNN. Lui-même est apparu sur CNN plusieurs fois en interview. Pourquoi je mentionne ce fait ? C'est que c'est quelqu'un qui est situé à la droite du Parti républicain, donc qui considère CNN comme une chaîne ennemie, comme tout son électorat d'ailleurs. Donc en général, Ron DeSantis ne parle jamais à CNN. Et là, on l'a vu beaucoup sur CNN, donc ça c'est assez révélateur. Ça veut dire qu'il s'adresse plus seulement à son propre électorat, mais qu'il cherche à élargir évidemment sa base en vue d'élections non plus primaires, mais d'élections générales. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Ron DeSantis est très critiqué, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte qui était celui des quelques jours, de la semaine avant l'arrivée de l'ouragan. Ron DeSantis venait de remplir, d'affréter 2 avions, des avions qu'il avait remplis de migrants, qu'il était allé chercher dans d'autres États, qu'il était allé chercher au Texas. Ces 2 avions, Ron DeSantis, à coût de plusieurs millions de dollars, les avait envoyés à Martha's Vineyard, dans le Massachusetts, qui est un haut lieu symboliquement démocrate, où Obama, sa résidence secondaire, passe ses vacances. Donc, dans l'imaginaire américain, c'est vraiment un des endroits qui symbolise la gauche américaine. Et quelques jours avant l'arrivée de l'ouragan, il s'apprêtait à rééditer cette opération politique en remplissant un nouvel avion de migrants, et cette fois en le voyant dans le Delaware, l'état de Joe Biden. Joe Biden qui l'insulte copieusement à longueur de meeting depuis des mois. Et donc, là, on a vu un visage tout à fait différent après le passage de l'ouragan de Ron DeSantis, qui cette fois-ci a mis tout ça, toute cette guerre politique, cette guerre culturelle, comme on l'appelle ici aux États-Unis, de côté. Il a lui-même été contraint d'aller demander de l'aide fédérale à Joe Biden. Il a appelé 3 fois le président. Et puis, il a bien été obligé de dire, entre guillemets, du bien de l'administration Biden qui a débloqué cette aide fédérale publiquement. Donc, il y a 2 façons de voir les choses. Aujourd'hui, Ron DeSantis est très critiqué pour montrer ses 2 visages, pour cet, entre guillemets, opportunisme politique. Et d'autres disent au contraire, c'est le signe que on a là quelqu'un qui sait se montrer pragmatique en situation de crise, qui sait gouverner avec d'autres leaders avec lesquels il n'est pas en contact d'habitude. Il sait mettre ses guerres culturelles, ses guerres politiques entre parenthèses quand il le faut pour le bien commun. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi Ron DeSantis est particulièrement scruté et critiqué en ce moment, parce que ce sera peut-être le prochain candidat à la présidentielle pour les Républicains en 2024.
Merci beaucoup, David, d'être passé dans Témoins d'actu.
Merci. Merci de m'avoir invité.
À bientôt.
Salut.
Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt.